Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview.
Où en sont les économies du golf? On va voir ça avec Alexis Karklins-Marchais qui nous a rejoint. Bonjour Alexis.
Bonjour Laure.
Les économies du golf, 4 mois de conflit, reprise des frappes, arrêt, reprise. Là, on a un arrêt des hostilités annoncé ce matin par les États-Unis. Mais on a eu un week-end évidemment sous tension, des pays du golf qui sont loin d'être sortis d'affaires.
Et oui, parce que le golfe persique, quand on parle des pays du golfe, en fait, on parle de 6 pays. Et ces 6 pays, ça représente moins de 1% de la population mondiale. Mais ça produit 20 à 25% du pétrole mondial. Et c'est une grosse part du gaz mondial également. On l'oublie, c'est aussi 40% des actifs sous gestion des fonds souverains. Si on rajoute à ça la pétrochimie, l'aluminium, les engrais, en fait, c'est un pôle économique majeur. Et évidemment, un pôle qui souffre. La fermeture du détroit d'Hormuz en mars dernier a été qualifiée par le FMI de la plus grande perturbation du marché pétrolier mondial de l'histoire. L'Agence internationale de l'énergie en a rajouté en disant que c'était même la plus grande rupture d'approvisionnement de l'histoire. Donc on est vraiment dans un moment important. On voit que ces 6 pays qui souffrent justement de cette guerre, bien sûr, de cette conjoncture. Le mémorandum qui a été signé à Versailles le 17 juin n'est pas encore une paix complète, et on le voit, vous l'avez rappelé avec les frappes ce week-end, clairement il y a des effets, les pays souffrent des effets sur les revenus d'exportation de pétrole et de gaz, mais aussi plus largement de la réputation et de la situation géopolitique actuelle.
Annalisa,
justement, comment ça se concrétise ces difficultés économiques?
Alors, d'abord il y a les révisions à la baisse qui ont été faites sur la croissance attendue pour les 6 pays, que ce soit la Banque mondiale, le FMI. On était parti en début d'année pour une croissance de la zone autour de 4%, on sera probablement en moyenne autour de 1%, mais en vérité, la guerre fait complètement voler en éclats l'image d'un golfe homogène. Concrètement, vous avez deux types de pays. Dans les 6 pays du golfe proprement dit, vous avez deux types de pays. Vous avez ceux qui vont être en récession, Bahreïn, Koweït, Qatar, et ceux qui seront en ralentissement fort, mais normalement en croissance, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Oman. Pourquoi cette différence? D'abord, il y a l'effet détroit d'Hormuz. Les pays n'ont pas d'alternative. Vous prenez Qatar, Koweït, Bahreïn, vous n'avez pas d'alternative. Vos exportations passent par le détroit d'Hormuz et évidemment, ce sont les 3 pays qui sont les plus concernés. C'est un peu la situation inverse pour l'Arabie Saoudite qui, elle, a pu rerouter ses exportations de pétrole via la mer Rouge et même les Émirats Arabes Unis qui ont pu rerouter une partie de leurs exportations d'hydrocarbures via Fujairah. Fujairah, c'est une ville qui donne sur la mer d'Oman, donc qui est après le détroit d'Hormuz. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet qui explique cette différenciation entre les pays dont on parle, la situation budgétaire. Vous avez des pays qui ont des ressources financières importantes. Je pense par exemple au Qatar, qui certes souffre énormément de la fermeture du détroit d'Hormuz, mais qui a des ressources financières. À l'inverse d'un pays comme Bahreïn, par exemple, qui est très endetté, ou même l'Arabie Saoudite, on le sait, qui a un niveau d'endettement fort. Et puis, il y a quand même des statistiques qui sont assez impressionnantes, même si on n'a pas toujours une clarté complète. Vous avez aussi des modèles économiques qui sont plus diversifiés. Je pense par exemple à Dubaï, donc dans les Émirats Arabes Unis, on parle d'un taux d'occupation hôtelier qui serait tombé autour de 10%. Alors, c'est un chiffre qui est contesté par les autorités. On était à 80% avant la guerre, on serait autour de 10%. Les estimations plus optimistes sont autour de 20-25% pour le deuxième trimestre 2026, donc ça a des impacts colossaux. On sait aussi, pour le transport aérien, le nombre de vols sur Dubaï était réduit d'environ 2/3 au plus fort de la guerre. Le Qatar, Doha, c'est 3/4. Donc on a vraiment des impacts qui sont multiples, ça n'est pas que le pétrole ou le gaz.
Ceux qui sont sur place ont le sentiment d'être dans un pays en solde, en fait, avec des discounts absolument. Partout, notamment dans les hôtels qui tentent d'ouvrir l'après-midi, d'aller chercher une clientèle locale.
Exactement. C'est l'illustration de ces effets qui vont bien au-delà des sujets pétroliers ou des sujets de gaz. Montre vraiment que ce pôle économique est devenu un pôle assez central, finalement, dans la tectonique des plaques de l'économie mondiale. Ces pays souffrent. La perte de réputation, ça va vraiment être un sujet important. Parce que pendant finalement plus d'une décennie, on a vu le Golfe comme une zone, en tout cas certains pays, comme une zone d'investissement relativement sûre. Ça reste évidemment des puissances économiques relativement importantes. Mais on voit par exemple en Arabie Saoudite, avec la réduction de la voilure sur le fameux projet Neom, vous savez ce projet de ville futuriste, où on a vu beaucoup The Line, là, cette grande ville.
Oui, il ne reste plus grand-chose.
Il reste, qui n'est même pas construit en réalité. Ça devait être 160
km. Dans le projet,
oui. Bon, eh bien ça, réduction de la voilure. Clairement aussi, les Émirats Arabes Unis, ils ont beaucoup de ressources et ils se relèveront, mais ça a été le pays dans la région qui a été le plus visé par les frappes iraniennes, que ce soit à Abu Dhabi, que ce soit à Dubaï. vocation de jouer ce rôle de hub technologique, économique, financier, eh bien aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'attentisme de la part des investisseurs.
Mais est-ce qu'ils ont réussi dans le Golfe ? Enfin, on le sait pour les journalistes qui sont sur place, avec une difficulté quand même de remonter ce qui se passe, interdiction de filmer le ciel, par exemple. Vous n'avez pas le droit de parler librement en fait, de ce qui se passe sur l'aspect sécuritaire, parce que c'est fondamental en fait, d'avoir l'air d'une plateforme sécuritaire.
On se rappelle à quel point les investisseurs aiment ce qui est prévisible et visible, et puis même les touristes tout simplement. Enfin, quand vous voyez les images, et on sait que parfois il y a des prismes médiatiques, mais quand vous avez des images de frappe dans certaines zones, eh bien évidemment ça ne vous encourage pas à y aller. En fait, ce que l'on dit, c'est que le Golfe reste une zone volatile, avec un potentiel de croissance très fort, avec des moyens financiers, encore une fois, qui sont bien présents, et qui vont se relever. Ça prendra probablement un peu de temps, entre 6 mois et 18 mois, selon les estimations et selon les pays. Mais de toute évidence, il y a une forme d'arrêt. On le dit, hein, il y a les cycles, et cette volatilité, elle se traduit tous les 6, 7, 8 ans. Nous-mêmes, hein, nous intervenons pas mal dans le Golfe pour nos clients. Nos correspondants locaux nous disent, voilà, tous les 6, 7, 8 ans, on doit s'attendre à des moments de ralentissement, des moments de volatilité. Nous y sommes. Et puis voilà, on va voir comment ça évolue.
Anaïdia.
Il y a aussi la question de la défense qu'il faut commencer à repenser, puisque le rôle des États-Unis a changé pendant cette guerre. Il y a de nouveaux axes qui se créent, notamment, je pense à l'Arabie Saoudite qui se rapproche du Pakistan, de l'Égypte, de la Turquie. Tout ça a un coût, évidemment, sur l'économie.
C'est vrai, les États-Unis ont été finalement la puissance dominante et fédératrice de la zone pendant plus d'une décennie, pendant presque deux décennies. Là, on voit que cette guerre produit des divergences de vues. On a par exemple les Émirats Arabes Unis qui ont quitté l'OPEP, qui ont quitté l'Organisation Mondiale du Pétrole. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. Parce que justement, des divergences de vues avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite souhaitant se désengager, alors d'une façon relative, mais de sa relation avec les États-Unis, alors que les Émirats Arabes Unis restent plus proches des États-Unis. On le voit sur les sujets de défense. On a vu par exemple les Émirats Arabes Unis interagir avec l'Ukraine, apprendre à se défendre contre les drones. Probablement que pour un certain nombre d'Européens, c'est aussi une chance, justement, d'arriver à sortir de cette relation si forte avec les États-Unis, parce que les Européens ont des choses à dire en matière de défense, en matière d'aérospace. Ils n'ont pas attendu cette guerre, mais là, ça crée vraiment une forme d'opportunité, parce que les pays du Golfe, aujourd'hui, ont une forme de doute, en tout cas partiel, mais de doute vis-à-vis des États-Unis, et donc chance pour l'Europe, chance pour des pays comme la France.
Merci beaucoup, Alexis Clarkin. Ce marché est venu ce matin dans la matinale de l'économie.